Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, c'est Jeudi Noir qui commence. Alors on va faire le troisième marathon musical d'affilée, donc le principe c'est qu'on vous parle d'un paquet de bouquins en une heure avec de la musique qui y correspond. Donc là on vient d'écouter le groupe grenoblois Tolar avec le morceau Fuir, donc c'est José au micro et Michel qui fera le prochain bouquin. Donc pour vous parler fuir, pour vous parler de Loué soit l'exil. Loué soit l'exil, c'est un bouquin écrit en 1975 par Vonda McIntyre. J'avais déjà parlé de je ne sais plus comment ça s'appelle, du serpent de Vonda McIntyre, le serpent du rêve, Vonda McIntyre, la dernière fois. Donc comme j'ai kiffé, j'en ai lu un autre. Celui-là, c'est son tout premier roman. Donc ça se passe sur une planète Terre mourante, un frère et une sœur, avec peut-être des pouvoirs un peu curieux, on a du mal à savoir, qui vivent dans une sorte de cité-grotte gigantesque qui est dominée par des familles tyranniques qui contrôlent tous les besoins primaires des habitants et des habitantes, qui pratiquent l'esclavage également. Et un jour, des pirates de l'espace débarquent pour prendre le pouvoir, et là ça change tout. Donc on se retrouve avec plein de personnages, des esclaves, des pirates, des parias de la société, chacun fait son petit bonhomme de chemin avec différentes préoccupations, hein, des choses familiales, des choses de pouvoir, des questionnements métaphysiques, et c'est très très bien écrit, tout s'entremêle, comme toujours chez Vonda McIntyre, c'est vraiment hyper agréable à lire, même si les premières pages sont un peu dures, et beaucoup beaucoup de thèmes différents, donc Loué soit l'exil, 1975, Vonda McIntyre.
Jet of nights, the situation's tense. Long in love, short on cash, hearts bakes dispense. We'll be home tonight. I gave all I had to give. Ah, lady, my lust goes with you. I got a life to live. Let's go to the 00. Stop the clock, anti-hero. Turn off the lights, phase out of sight. Let's go to the zero, yeah. Young and slightly crazy, I believed in you. I know you lied, but I never cried. There was nothing I could do. Go and find someone new as you spin round and round. You're gonna miss me when I'm down. Don't let it get you down, no. Let's go to the 00. Stop the clock, anti-hero. Turn off the lights, phase out of sight. Let's go to the 00. Let you down easy, mama. But know what's on my mind. You make me feel the way I do. I can't hold on to you. That was another space and time. I said we're going to the 00.
Anti-hero. 00.
Vous venez d'écouter un super morceau de Kim Follet, donc 00, comme vous avez pu, comme vous venez de l'entendre. C'est un petit, il est mort il y a quelques années déjà, mais on l'aime bien et on en passe de temps en temps. Et vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour un de ces énièmes marathons du livre, ou trail du livre, enfin on ne sait pas trop comment dire. Et là je vais vous présenter assez rapidement un bouquin de William Gibson, qui s'intitule « Compte zéro ». Alors William Gibson, c'est un Canadien qui est un des précurseurs, un des inventeurs du ce qu'on appelle cyberpunk. Et cyberpunk, c'est quoi ? C'est un univers dans lequel les États tels qu'on les connaît ont quasiment disparu, dans lesquels des espèces de multinationales complètement tentaculaires ont pris le pouvoir et ont assez d'argent et d'autorité pour entretenir elles-mêmes des mini-armées. Et dans ce monde complètement déstructuré, finalement, il y a deux types de personnes. Il y a celles qui travaillent pour ces multinationales et qui perdent la liberté en échange du confort, d'une certaine manière. Et ensuite, vous avez toute une espèce de petit monde qui va survivre en parasitant plus ou moins ces multinationales ou en étant plus ou moins, clochards, un peu paumés. Et donc c'est un univers assez dur, mais Gibson, lui, ne s'intéresse finalement qu'à ceux qui luttent ou essaient de survivre face à ces multinationales. Et donc Compte Zéro raconte justement le destin de trois personnages qui, a priori, se connaissent pas du tout et qui vont se croiser par la force des choses. Puisque justement tout va être dans cet enjeu de lutte, enfin tout un tas de luttes autour de choses détenues par les multinationales et pour lesquelles elles luttent entre elles. Et donc j'aime bien, c'est assez inspiré par tout ce qui a été la Beat Generation, c'est-à-dire comme de John Cumberbatch. Donc c'est des récits qui sont autour de gens un peu complètement un peu paumés. Mais bon, Gibson, Compte Zéro. Voilà, vous pouvez aussi en lire d'autres, à vous de voir. Moi, j'aime bien. Donc, vous avez aussi Neuromancien, Gravé sur Chrome, Mona Lisa s'éclate, Hydro, des choses comme ça. Voilà, c'était Gibson, Compte Zéro.
Allez, Anna, le journal, les fesses, ça fait AB.
Oh, putain, comment ? Je me suis planté, là, avec le Zan et tout.
Il n'y a rien à dire.
Avec le Zan, je me suis planté.
Allez, Ranal du journal, elle a les fesses, ça fait ça, l'air tendu dans la vaisselle, ça les fait baisser les vestes. Alors, allez, Ranal du journal, elle a les fesses, ça fait ça, l'air.
Radio Libertaire 89.4, toujours Jeudi Noir qui se poursuit, le Jeudi Noir littéraire. Donc là, c'était un tout petit morceau rigolo de Étron Fou le Loup Blanc, qui s'appelle toujours d'ailleurs Percutant Reportage au Pays des Fées, puisque je vous emmène ce soir au Pays des Fées avec Jo Walton. Jo Walton, une autrice galloise. Et oui, pour une fois, c'est pas une états-unienne. Jo Walton a écrit en 2011 un bouquin qui a été assez connu, qui s'appelle Morwenna. Alors Morwenna, j'étais tombé dessus sur un blog qui proposait un défi Morwenna. Il fallait lire le plus de bouquins possible, puisque dans ce livre Morwenna, il y a beaucoup de livres cités, je vais y revenir. Donc ça se présente sous la forme du journal d'une adolescente en 1979. Une adolescente qui, on l'apprend très vite, a perdu sa sœur jumelle dans un accident de voiture. Et qui a une grosse douleur à la jambe suite à cet accident, qui a un rôle dans l'histoire, qui est élevée par ses tantes et placée dans un pensionnat assez rigide. La particularité de cette jeune femme, c'est de voir et de parler aux fées. Alors c'est pas forcément des petites fées mignonnes, elles peuvent être assez horribles, mais en tout cas elle est tout à fait dans un monde de magie qui pourrait les complètement réel. Dans ce livre, ça a l'air réel, en tout cas. C'est réel pour elle et pour le lecteur ou la lectrice. Et quand je parlais du défi Morwenna, c'est que cette adolescente est une grande lectrice de science-fiction et de fantasy. Et à chaque page, quasiment, elle parle d'un bouquin qu'elle a lu. Donc c'est une fan de Tolkien, mais elle adore Ursula Le Guin comme nous ici, plein d'auteurs, d'autrices, Samuel Delany par exemple. Et c'est une mine pour aller lire plein d'autres bouquins, en plus d'être un bouquin. Alors c'est une atmosphère à la fois intimiste, mais pas nunuche du tout, c'est complètement doux amer, il y a des passages bien bien violents. Donc en plus d'être une histoire assez intéressante, ça donne plein d'idées pour d'autres lectures. Voilà, donc Morwenna par Jo Galton.
I smell a rat, baby. I smell a rat, baby. You better watch out. I smell a rat. Thank you.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4. Et donc vous venez entendre un morceau de Big Mama Thornton, I Smell a Rat. Et moi je vais vous parler d'un livre que je viens de relire là dans les deux minutes qui ont duré le morceau. Donc qui s'intitule Docteur Rat de William Kotzwinkel. Et qui est assez contemporain malgré sa date d'écriture un peu ancienne maintenant. Parce que je pense que ça date des années 70. L'auteur est né dans les années en 1938 et aux États-Unis. Et donc c'est l'histoire, oui, 77, voilà, 76 la date d'écriture. Et c'est l'histoire ça commence dans un laboratoire où des scientifiques font des expérimentations horribles sur tout un tas d'animaux. Et évidemment, il y a un rat qui a embrassé la cause des humains et qui est tout à fait d'accord pour faire progresser la science au péril de sa vie et de sa santé. Et il est très très frais, très très fier d'avoir une petite oreille tatouée. Cependant, alors ça commence comme ça, cependant, il y a une révolte qui gronde, c'est-à-dire que tous les animaux de la planète commencent à se révolter contre la domination de l'humanité sur la planète et sur la nature, et commencent à essayer de reprendre en quelque sorte, pas reprendre le contrôle de la planète, parce qu'ils veulent pas forcément prendre le pouvoir, mais en tout cas ils veulent détruire le pouvoir qu'exercent les êtres humains sur cette nature en la détruisant. Donc maintenant qu'on a un petit peu de recul, on peut dire que on les a bien niqués, hein. Ils sont morts, puisqu'on a des super insecticides, on est en train de tuer toutes les espèces vivantes et et voilà, ça va se terminer. C'est un roman qui est complètement irréaliste, puisque les animaux n'ont pas réussi à se révolter, nous sommes en train de les tuer. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, ils vont vraiment se révolter et que tout ira mieux.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, c'est toujours Jeudi Noir Littéraire. On va vous présenter un nouveau bouquin, ancien, mais nouveau maintenant. Donc pour une fois, je ne vais pas parler de SF, mais d'histoire avec un grand H, un peu romancé quand même. C'est un bouquin états-unien, encore une fois, de Tracy Chevalier, qui s'appelle « Prodigieuse créature ». Prodigieuse créature, c'est l'histoire de, comment s'appelle-t-elle, Mary Anning, il n'y a pas de H, et de Elizabeth Philpott. Alors, si vous ne connaissez pas, ce sont deux pionnières, de vraies pionnières dans la vraie vie, de la paléontologie. Donc ça se passe au 19e siècle, et Mary Anning, c'est une petite fille pauvre, jeune adolescente. Elizabeth Philpott, c'est une adulte, une grande bourgeoise, et elles se rencontrent sur la plage parce que toutes les deux adorent ramasser, chasser des fossiles. Elles se lient d'amitié et elles arrivent à trouver des pièces incroyables, comme par exemple les premiers plésiosaures, les ichthyosaures. Elles ont même eu un ptérodactyle une fois. Et c'est de plus en plus connu leur trouvaille. Et donc il y a de riches scientifiques ou pas scientifiques anglais qui viennent leur acheter leurs pièces, qui finissent au British Museum, au Muséum d'Histoire Naturelle, etc. Il y a une correspondance avec Cuvier, par exemple. Et pendant des années, des décennies, elles ont été complètement oubliées de l'histoire et réhabilitées il y a quelques années, où on leur a enfin donné la place qu'elles méritaient. Même si de leur vivant elles ont leur petit succès, elles ont été ensuite effacées au profit d'hommes plutôt. Dans le milieu de la science, c'est un classique, hein, l'effet Mathilda. Voilà, donc si vous voulez un petit peu vous frotter à ce monde patriarcal des sciences avec deux héroïnes qui sont des vrais gens qui ont existé, un chouette bouquin de Tracy Chevalier, Prodigieuse créature.
Gouvernante, ses armoires de farde et de devoir ne protégeaient plus son.
bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, et vous venez d'entendre Wat Tyler pour un morceau qui s'intitule The Tools of Satan and the Glorious Army of the Supreme Soviet. Donc, I'm feeling mellow man. Donc, voilà, les outils de Satan et de la glorieuse armée du Soviet suprême. Et c'est parce que je vais vous présenter, parce que je sais un très grand esprit d'à propos, un livre d'Arkady et Georgi Weiner, qui sont deux frères, et qui s'intitule L'Évangile du bourreau. Et sans surprise, ce livre parle du Soviet suprême. Non, pas que. Mais l'histoire, c'est un gars qui, comment dire, dans les années 60-70, est un honnête professeur de droit à Moscou et qui a toutes les, comment dire, toutes les marques de respectabilité, je ne saurais pas dire bourgeoise, hein, parce qu'on est à Moscou, donc je dirais de la respectabilité prolétarienne, évidemment, mais et il fait quelque chose qui a perdu beaucoup de soviétiques, et pour cause, il boit. Et quand on boit, pourquoi est-ce que c'est dangereux? Parce qu'on parle. Et au ce moment-là, il va rencontrer quelqu'un qui se présente comme le gardien des portes de l'enfer, et ça va le lancer dans une espèce de, comment dire, d'errance ultra-alcoolisée, à travers les rues de Moscou, où il se souvient de son passé, de nettoyeur des services de la police politique soviétique, où son boulot c'était de tuer des gens. De tuer plein de gens parce que ils étaient coulaques, parce que ils étaient anarchistes, parce que ils étaient ceci, parce qu'ils étaient trotskistes, parce qu'ils étaient méchants, quoi, en fait. Et donc ça commence et ça culmine autour de tout ce qui se passe au moment de la mort de Staline. Donc c'est un roman qui a été écrit et diffusé clandestinement en URSS à la fin des années 70. Qui a fait sensation là-bas, qui circulait en manuscrit, les gens se l'échangeaient comme ils pouvaient, ils le lisaient, et c'est une espèce de plongée alcoolisée dans le régime de la répression stalinienne. Moi j'aime beaucoup, je vous le recommande fort. C'est donc Arkady et Georgi Weiner, L'Évangile du bourreau. Voilà.
Avec un morceau disco des années 80 qui est une reprise. Ils marchent à la fourrure.
Bah oui, une reprise du groupe Berrurier Noir par Petra Pied-de-Biche. Ça faisait très longtemps, Petra Pied-de-Biche. Voilà, en live, un petit enregistrement pirate, en live, reprise de ce groupe disco des années 80. Alors, j'avais oublié d'annoncer le morceau pendant le Tracy Chevalier Prodigieuse Créature. C'est un super beau morceau de Masao Yagi, de Dinosaur Plesiosaurus Attax. C'est tiré d'un anime japonais, je ne sais plus lequel. Voilà, bref, là je vais vous parler de trois bouquins d'un seul coup. Et ouais, parce que le thème, c'est bûcheron, 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 c'est la forêt. Alors, dans la forêt, on a pour commencer un bouquin d'une autrice états-unienne, Jean Egland, qui s'appelle tout simplement Dans la forêt, de 1996. Donc là, c'est légèrement dystopique, puisque c'est notre bonne planète, dans une société qui s'effondre de toutes parts parce qu'elle a trop fait confiance aux technologies, mais c'est pas beaucoup abordé, puisqu'on se concentre surtout sur deux sœurs qui sont dans une maison perdue au milieu de la forêt, le Grand Nord, et ces deux sœurs essayent de survivre. Elles apprennent à vivre ensemble, à survivre. Alors c'est un super joli roman sous la forme d'un journal intime d'une des deux sœurs, un roman d'apprentissage, un roman initiatique, quasiment en huis clos. Ça pose plein de questions sur la société de consommation, tout ça à travers des rêves d'avenir d'adolescentes. Peut-être avenir hypothétique, puisqu'elles sont pas sûres d'en avoir vraiment un. Donc ça, c'est Jean Egland, Dans la forêt. Le deuxième bouquin qui a un peu le même cadre, c'est Sauvage. Alors Sauvage dans le sens The Wild, la nature sauvage. Hein. Le titre original, c'est The Wild Inside, de 2018 plutôt, écrit par Jamie Bradbury, une autrice états-unienne à nouveau. Qui vit en Alaska. Alors c'est vraiment dans les décors des grandes forêts d'épicéas ou de conifères, en tout cas alaskaïennes. Et c'est à nouveau une ado qui est née pour piéger, chasser le gibier. Elle fait ça très très bien. Et elle vit avec son père et son frère dans une maison complètement paumée dans la forêt également. Et ce qu'elle adore, c'est entraîner ses chiens de traîneau. Voilà. Sa mère, qui est morte, lui a laissé trois règles. Ne jamais s'éloigner, ne pas entrer dans la maison avec les mains sales et ne jamais faire saigner un humain. Une règle un petit peu bizarre. Et justement, cette règle un peu bizarre, elle va être un jour pas respectée, puisque un étranger va débarquer, il y a peut-être du sang qui va couler, des choses comme ça. Et ça bascule d'un univers à la fois qui mêle thriller, fantastique, huis clos. Et moi, ça m'a fait penser à du Stephen King, si Stephen King était bon tout le long de ses romans. Un Stephen King sans erreur. Donc voilà. Donc Jamie Bradbury, Sauvage. Et on parlait de Stephen King, justement, le troisième, c'est Stephen King. La petite fille qui aimait Tom Gordon, il l'a écrit en 1999. Et là, c'est l'histoire de... C'est un survival, hein, un roman de survie et d'horreur. C'est une fillette de 9 ans qui se perd dans les bois, les marécages, tout ça, par là. Elle a très peu de nourriture dans son sac. Une petite radio où elle écoute le baseball parce qu'elle est fan de Tom Gordon, c'est un joueur de baseball connu là-bas, paraît-il. Et elle essaye de survivre, mais elle se rend compte qu'elle est peut-être suivie, ou est-ce dans sa tête, par une créature bizarre. C'est un bon Stephen King. La petite fille qui aimait Tom Gordon. Il sait très bien écrire sur l'enfance, et là, le seul personnage de ce roman est une fillette, et ça passe très très bien. Stephen King, La petite fille qui aimait Tom Gordon. We'll be right back.
venez d'entendre Enfance Sauvage, on va te tuer. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour son énième marathon trailer course de sac, enfin bref, littéraire. Et je vais vous parler d'un bouquin de Lawrence Bloch, qui est un Américain encore, et qui parle encore de sang. Mais oui, mais j'ai pris les méchants ce soir. Voilà, il y a le gentil, c'est José, et puis à moi, il y a le méchant. Bon, c'est comme ça. Et ce bouquin, alors je pourrais vous parler d'un peu toute la série, parce que il y en a plusieurs, s'intitule L'amour du métier. Et l'amour du métier pose un problème narratif intéressant, c'est... certaine manière que vous pouvez souvent voir au cinéma si vous aimez aller voir des gros films qui tâchent, c'est comment est-ce qu'on met en scène un méchant. Et parce que dans l'amour du métier, le héros, entre guillemets, c'est un tueur à gages. Donc ce tueur à gages, c'est un type, comment dire, qui mène une vie totalement... totalement médiocre, il a un appartement totalement impersonnel, il effectue des contrats contre des gens contre lesquels il a rien, mais bon, c'est le bise, quoi, il faut les tuer. Et il est très très bon dans ce qu'il fait, donc il a souvent des contrats. Et petit à petit, en fait, le personnage va se creuser. Alors évidemment, comme très très souvent les auteurs, Lawrence Bloch ne peut pas se résoudre à présenter son personnage comme le pire la pire des ordures, c'est-à-dire que il tue jamais vraiment des gens qui sont complètement gentils, quoi. Ça c'est peut-être une des limites. En revanche, ce qui est aussi intéressant, c'est que au fur et à mesure de la série, ce tueur à gages va poser des questions sur lui-même et se demander finalement s'il est quand même pas un peu bizarre. Et donc il développe tout un tas de trucs comme ça autour de ses pouces. Est-ce qu'il a pas des pouces de tueur à gages? Est-ce qu'il a pas finalement, est-ce qu'il est pas sociopathe? Est-ce qu'il est pas ceci? Est-ce qu'il est pas cela? Et pendant ce temps-là, il continue son petit bonhomme de chemin en tuant des gens pour gagner sa vie. Et donc il y a des passages assez rigolos, je vous l'accorde, qui peuvent satisfaire certains fantasmes atroces que vous pouvez avoir. Genre, moi je sais pas, tuer la personne qui passe 50 minutes devant vous pour acheter, je sais pas moi, une boîte de céréales. Alors j'exagère, mais c'est pas tout à fait ça. Mais parfois il y a un peu de ça quand même. Donc bon, c'est des petits romans. Ça se lit, c'est assez light, mais c'est rigolo. Lawrence Bloch, L'amour du métier.
Bye.
Radio Libertaire 89.4, c'est Jeudi Noir qui se poursuit avec toujours des suggestions de lecture pour finir l'été, enfin l'été, l'automne. Ah, ma bonne dame. Je vais vous parler d'une autrice française, pas beaucoup parlé d'autrice française, qui s'appelle Catherine Dufour. Catherine Dufour, j'étais tombé sur une interview où elle traitait les riches de raclure. Donc ça m'a donné envie de lire ce qu'elle avait à dire. C'est une autrice de SF et de fantasy, qui est connue surtout pour ses bouquins à la Terry Pratchett. Elle adore les parodies à la Terry Pratchett, c'est son dieu, dit-elle dans une interview, son seul dieu. Et sinon, en ce moment, elle bosse dans le solarpunk. Donc, le solarpunk, c'est un courant qui est à l'opposé du cyberpunk dont vous parlait Michel tout à l'heure, qui est de la SF optimiste, qui cherche des solutions pour l'avenir au lieu de faire toujours des dystopies horribles qui nous dépriment. Le bouquin dont je vais vous parler, il est déprimant. C'est un qu'elle a écrit, qui était assez connu, qui était ultra primé. C'est Le goût de l'immortalité, écrit en 2005. Alors, ça se passe en Chine. C'est une ado, encore une ado, je parle que d'ado, hein. Chinoise, qui est la fille d'une femme qui vit de la prostitution, d'un monde ultra technologique. Tout le monde est tuné génétiquement. C'est pour ça que le morceau que j'ai passé, c'est X-Ray Specs. Genetic Engineering, le lien quand même, pro. Et tout le monde est génétiquement modifié, sélectionné à la naissance, etc. Mais de manière volontaire, hein. C'est pas un monde très autoritaire, etc. Enfin, c'est pas forcément abordé de cette façon-là. Par contre, c'est un monde qui part totalement en vrille, où il y a des luttes sur plein de niveaux, de tours, etc. Je vous passe les détails, bref. Et c'est une enquête, un polar, dans ce monde dystopique, où il y a un complot qui parle de génétique, de géopolitique, un peu compliqué. Alors, c'est une écriture qui est très précise, qui demande vraiment d'être très attentif pour suivre. Si on rate des choses, elle va pas répéter. Et elle a eu beaucoup de prix. Et dans une interview, elle dit « En fait, j'ai eu beaucoup de prix. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un roman qui est calibré pour les hommes, pour les mecs. Les geeks fans de SF, hommes, cis. » Voilà. Donc, il n'y a pas de sentiments. Il y a du sexe, de la violence et des choses très compliquées qui font se sentir bêtes les lecteurs et les lectrices. Voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de technologie. Alors, elle est ingénieure informatique, donc ça l'a beaucoup aidée. Alors, je trouve qu'elle exagère un petit peu parce que son roman est beaucoup plus riche que comme elle le caricature là. Ça s'appelle Le goût de l'immortalité, plein de thèmes abordés, Catherine Dufour, voilà.
D'entendre Leibniz et de Spinozas. Donc voilà, les Spinozas, c'est les danseurs qui accompagnent Leibniz pour faire joli. Et les go-go danseurs, même, je pense, qui expriment leur conatus, leur persévérance dans l'être et dans l'existence de façon, en musique et tout, c'est trop cool. Et c'est pour vous parler donc d'un bouquin assez étonnant, assez de Delany, de Samuel R. Delany. On vous en a déjà parlé, c'est un auteur afro-américain de science-fiction, mais là, il a écrit un truc, c'est assez récent, 2017, où il relate, de manière un peu étrange, une rencontre qui a historiquement eu lieu entre Leibniz et Spinoza. Leibniz étant venu rendre visite à Spinoza, donc ces deux philosophes du XVIIe siècle. Leibniz, deux très grands philosophes, deux héritiers de Descartes, deux héritiers critiques de Descartes. Et sauf qu'il y en a un, Spinoza, il était, c'était c'était de la, ah, c'était un beau gibier pour du bûcher, quoi. Il a failli se faire assassiner par un fanatique religieux. Il était dans l'enfer des bibliothèques pendant très longtemps avec les livres pornographiques, alors qu'il écrivait de la philosophie. Et Leibniz, lui, c'était un type beaucoup plus respectable, entre guillemets. Il croyait en Dieu, il défendait la cause de Dieu. Mais bon, il était intéressé par le sulfureux Spinoza, et donc ils se sont rencontrés. Et Delany en a sorti une petite nouvelle qui fait, ça fait quoi? Ça fait à peu près 90 pages, mais écrit gros. Alors, c'est curieux. Je suis pas sûr d'avoir exactement compris ce que veut dire Delany. Il faudrait peut-être sans doute que je le relise 3-4 fois pour voir un petit peu. Mais c'est suivi, donc c'est édité aux éditions Goether, et c'est suivi d'une petite interview qui s'intitule Racisme et science-fiction, qui date de 1998, qui regorge d'anecdotes et d'analyses qui sont très intéressantes. Qu'est-ce que ça fait pour un Afro-Américain d'écrire dans un monde massivement dominé finalement par des juifs de gauche, qui savent aussi ce que c'est que d'être mal vu, qui savent aussi tout un tas de choses, mais qui en même temps bénéficient d'une position dominante dans un certain milieu. Et donc, ici, vous avez, qui sont sympas avec Delany, et en même temps, ils peuvent pas s'empêcher de lui rappeler qu'il est noir. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est plein d'humour, c'est une belle analyse. Et ensuite, vous avez aussi dans ce bouquin un échange dans un sens plus ancien. c'est une interview où on voit toute l'intelligence et la finesse et la répartie de Delany qui sont assez drôles, quoi. Donc voilà, c'est une curiosité. Delany, La Thé du Grenier. Voilà, si ça vous tente, jetez-vous dedans.
Radio Libertaire 89.4. Alors désolé, j'ai raccourci un petit peu ce magnifique morceau de, comment s'appelle-t-il, Akira Miyagawa. C'est tiré d'un anime Space Battleship Yamato 2199, parce que le morceau s'appelle Chamblot, et le livre dont je vais vous parler s'appelle également Chamblot. Chamblot de Catherine Lucille Moore. Alors Catherine Lucille Moore, c'était une autrice états-unienne à nouveau, qui a écrit ce recueil de nouvelles, Chamblot, en 1933. Ça a été publié en France en 1953, apparemment. Alors, c'est elle qui a inventé Han Solo, quand même, hein, de Star Wars, hein, puisqu'elle a un héros qui s'appelle je ne sais plus comment, West, je ne sais pas quoi, peu importe. Mais en tout cas, c'est un mec en cuir qui est contrebandier, qui sait super bien tirer, qui a un regard d'acier. Et ce héros, elle le balade dans plusieurs mondes, puisqu'il y a des martiens, martiens des terres sèches, des vénusiennes magnifiques, etc. Alors, on a affaire à de la SF, enfin de la SF. C'est une base SF puisque c'est interplanétaire, mais c'est surtout du fantastique puisqu'à chaque fois qu'il se retrouve sur une planète, c'est une aventure plutôt fantastique qui se passe, où il passe dans des dimensions parallèles, etc. Alors, la base, hein, vraiment, c'est une femme qui écrit, mais c'est très très sexiste. Hein, c'est vraiment lui, Han Solo, je vais l'appeler Han Solo. Mais ce Han Solo primaire, là, adore les femmes, je cite, « bien faites et soumises ». Voilà, elles sont toujours dangereuses. C'est pas elles que le danger arrive. Elles sont maléfiques. Elles l'entraînent dans des trucs pas possibles. Donc il est obligé de les buter souvent. Hein. Voilà. Sinon, il en sauve aussi les gentilles femmes. Il y en a et il les sauve. Alors le décor SF sert de base à une sorte de panthéon. Voilà, il y a plein de dieux anciens qui viennent d'autres planètes et qui s'incrustent dans ces histoires. Ce qui fait que Lovecraft, dont c'était une contemporaine, l'appréciait beaucoup. Même s'il y avait des choses qu'il aimait pas, en tout cas, il en a dit du bien. Lovecraft n'a pas forcément dit du bien de beaucoup de monde. Donc Catherine Lucine Moore. Donc les histoires sont assez clichés, un peu kitsch, un peu cheesy maintenant. Par contre, elle écrit vraiment de manière un peu déroutante. Elle emploie l'oxymore à tour de bras. Dès que c'est beau, c'est que c'est laid. Dès que c'est délicieux, c'est que c'est horrifique. Donc ça te met une atmosphère un peu curieuse, justement un peu à la Lovecraft. Voilà. Catherine Lucine Moore, Chamblot.
Vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, et vous venez d'entendre un morceau de Pino Donaggio, c'est Piranha Homunculus. Donc Homunculus, c'est aussi le titre du... Oh, quel hasard. Mais ce José, mais qu'est-ce qu'il est taquin. C'est aussi le titre d'un des bouquins que je vais vous présenter, parce que je vais vous en présenter deux. Alors, je ne sais pas pourquoi José les a mis ensemble. Surtout que j'ai tout oublié du deuxième. Et le premier, donc, c'est James P. Blaylock. Je vous ai déjà parlé de Blaylock pour un autre bouquin qui s'intitulait Le Dernier Denier, consacré à ce qui s'est passé avec les deniers donnés à Judas quand il a assassiné, quand il a livré Jésus-Christ. Et donc là, c'est un peu différent. C'est pas du steampunk. Si, c'est plutôt, ouais, c'est carrément, c'est le côté steampunk de Blaylock. C'est Le Dernier Denier qui était pas steampunk. Steampunk, c'est qu'est-ce qui serait passé au 19e siècle si la technologie à vapeur avait été plus développée, quelque sorte, si on n'est pas troqué la vapeur contre l'électricité. Et donc là, dans toute la série qui est consacrée à une espèce de savant aventurier comme on en trouvait chez Jules Verne, Saint-Yves, Blaylock va mettre en scène ce personnage qui lutte contre un gros méchant. Un grand méchant qui ressuscite des gens et cherche à dominer le monde en le menaçant des pires horreurs afin de faire chanter le gouvernement. Et donc c'est une espèce d'hommage un peu ironique à toute la littérature d'aventure du 19e siècle. Ça se lit bien, c'est plutôt entraînant, c'est rempli de personnages qui sont nobles et qui ont des sentiments nobles, opposés à des personnages vils qui ont des sentiments vils, et donc c'est tout à fait rassurant. Par ailleurs, le second bouquin dont je voulais vous parler... il y a des piranhas au début, me dit José, alors j'en sais rien. Franchement, je sais plus. Mais en tout cas, c'est bien. Et Si vous aimez George R.R. Martin, mais que vous n'avez pas envie de lire sa série de 36 bouquins encore inachevés, que vous avez déjà vu à la télé, donc Goethe, là, Le Trône de Fer, vous pouvez lire ses nouvelles. Et donc vous avez quelques nouvelles qui sont réunies dans Les Rois des Sables. Et je me souviens qu'elles sont bien. Franchement, je crois que c'est très cool. On pourrait se dire que, comme il écrit des très très longs trucs, il ne sait pas écrire des petits trucs. Ben, en fait, si, il écrit des petits trucs qui sont très très chouettes. Et en particulier, par exemple, la dernière qui s'appelle Le Roi des Sables, justement, qui donne le titre à l'ensemble du bouquin, est une assez jolie petite nouvelle sur un type qui va acheter illégalement ce qu'il pense être des insectes combattants.
C'est des piranhas.
Non, c'est pas les piranhas. Et ça n'a rien à voir avec les piranhas. C'est vachement mieux que ça. Et ce type qui a plein d'argent et qui pense avoir tous les droits achète donc ces insectes combattants, va les maltraiter et ça va se retourner contre lui d'une manière un peu inattendue. Voilà, donc c'est des nouvelles qui sont plutôt bien fichues. Le gars a le sens du récit et c'est vous entraîner dans certaines histoires. Et donc, oui, José me montre une sorte de piranha qui n'a absolument rien à voir.
J'ai choisi la musique pour ça. Il y a un rapport.
Oui, mais justement, c'est parce que les insectes qu'il achète sont vachement mieux que des piranhas. Et donc, voilà, j'ai pris José en, comment dire, voilà. Donc maintenant, je comprends tout. Mais c'était une erreur. Donc... voilà, musique.
Désolé, Giorgio Moroder, d'avoir coupé ton morceau qui s'appelait Exploration. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. C'est toujours Jeudi Noir. On a encore quelques bouquins dont on veut vous causer, donc je limite un peu la musique. Le prochain, c'est à nouveau une autrice, à nouveau états-unienne, c'est Becky Chambers. Alors, j'ai rien lu de Becky Chambers à part ce bouquin, Becky Chambers. Voilà, c'est une novella. Alors, novella, c'est vraiment le format entre le roman et la nouvelle. Et j'ai vraiment adoré. Ça a été écrit en 2019. Ça s'appelle Apprendre si par bonheur. Alors, c'est sous la forme d'un journal de bord. Journal de bord d'une astronaute qui, avec trois comparses, file vers quatre planètes très différentes. Ils sont mandatés par une société civile pour aller explorer quatre planètes. Et cette mission scientifique n'a pas pour but la colonisation. Et leur consigne, c'est de laisser le moins d'empreintes possible, le moins d'empreintes humaines possible, de pouvoir repartir en ayant juste fait des analyses scientifiques et sans avoir rien abîmé. Le voyage, évidemment, se passe pas tout à fait comme prévu. Voilà, c'est tellement court, c'est 100 et quelques pages, je vais pas trop en dévoiler. Mais en tout cas, ça parle d'écologie, ça se pose des questions sur le but de la science, de la connaissance pour elle-même, de l'éthique. Il y a des relations interpersonnelles, c'est très dense. Hein. De l'aventure aussi, de l'aventure, de l'amour. Et puis quatre personnages un peu atypiques. Hein. Je vous laisse les découvrir, mais voilà, on a un perso homme trans qui est à peine décrit en un mot. Hein. Ça, c'est pas le sujet du truc. Un perso asexuel, c'est assez rare dans les bouquins, mais c'est juste une catégorie comme on aurait décrit leur physique. C'est pas le sujet. Mais ça fait juste plaisir à rencontrer dans des bouquins comme ça. C'est Apprendre si par bonheur de Becky Chambers.
Les astronomes.
Platon.
Platon, né en 428 avant Jésus-Christ. Philosophe grec, disciple de Socrate et maître d'Aristote. Sa philosophie, qui a pour méthode la dialectique, a pour couronnement la théorie des idées. Au sommet est l'idée du bien. Mort en 347 avant Jésus-Christ.
Aristote.
Aristote, né à Stagir en 384 avant Jésus-Christ. Philosophe grec, auteur d'un grand nombre de traités de logique et de physique. Mort à Chalcis en 322 avant Jésus-Christ.
Copernic.
Nicolas Copernic, né à Toruń en 1473. Astronome polonais, il démontra le double mouvement des planètes sur elles-mêmes et autour du Soleil. Mort en 1543.
Galilée.
Galileo Galilei, dit Galilée, né à Pise en 1564. Physicien et astronome italien, il réalisa en 1609 la lunette qui porte son nom. Mort en 1642.
Kepler.
Johannes Kepler, né près de Weil en 1571. Astronome allemand, il énonça les lois dites de Kepler, d'où Newton sut dégager le principe de l'attraction universelle. Mort en 1630.
Einstein.
Albert Einstein, né à Ulm en 1879. Physicien allemand, il est surtout connu pour sa théorie de la relativité. Prix Nobel en 1921. Mort en 1955.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire, si vous écoutez, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Et maintenant, je voudrais vous parler de littérature. Et donc, un auteur américain que j'aime beaucoup.
C'est pas ta voix de Beethoven.
Ah, j'essaye. Moi, je veux un destin radiophonique grandiose. Et enfin, non, pitié, pas ça. Et donc, un auteur dont je vous ai sans doute déjà parlé, qui s'appelle Thomas Pynchon. Ouh, si on le prononce à l'américaine et à l'intoven, Thomas Pynchon. Alors, il en a écrit pas mal, il en a écrit environ 8. Et là, je voudrais vous parler de Mason Hendrickson, qui est un roman, sur le début de l'histoire des États-Unis. Vous avez deux astronomes, d'où le morceau précédent, de Claude Vivier, l'annexe des astronomes. Et donc, ce sont deux astronomes qui ont existé réellement, mais que Pynchon va remettre. Mais dans le cadre d'un roman, où il imagine qui sont ces personnages, et leur job, au bout d'un certain moment, après quelques aventures à travers le monde, en Amérique, en Afrique du Sud et ailleurs, va être de tracer une ligne qui existe encore, qui s'appelle la ligne Mason-Hendrickson aux États-Unis, et qui, était censée séparer deux États. C'est comme on sépare deux propriétés, et qui va finir par devenir la ligne qui sépare le nord industriel du sud esclavagiste. C'est peut-être là que vient d'ailleurs ce qu'on appelle les Dixie, c'est-à-dire les sudistes au sens américain du terme. C'est un roman, Pynchon a un fort goût pour le surréalisme, et donc il y a vraiment des choses complètement étranges, un peu fantastiques. Et c'est écrit, alors il a essayé de rendre hommage au XVIIIe siècle, parce que c'est le moment où se déroule cette aventure. Et donc c'est écrit dans un style un peu précieux, mais pas trop. C'est un auteur dont je vous recommande presque à peu près inconditionnellement tous les bouquins. Donc Thomas Pynchon, Mason Hendrickson.
Madame l'institutrice est morte ce matin. Ce matin à l'aube, dans l'eau de son bain, y en a qui disent qu'elle est décédée. Moi je dis, elle s'est suicidée. Elle était petite et grisonnante, habillée habile comme une gouvernante. Ses armoires de farde et de devoir ne protégeaient plus son histoire. C'était hier au cours d'histoire, l'Empire romain contre les barbares. C'est, elle dit, le début de la fin, l'Empire romain périra demain. Elle était petite et grisonnante, habillée habile comme une gouvernante. Ses armoires de farde et de devoir ne protégeaient plus son histoire. Sans doute que peut-être que c'est mieux ainsi. L'Empire romain au paradis, et nous ici sans institution, sans institutrice à Chignon. Elle était petite et grisonnante, habillée habile comme une gouvernante. Ses armoires de farde et de devoir ne protégeaient plus son histoire. Sa vie à elle était loin d'être belle. Mademoiselle, madame, veuve et mademoiselle, voyez ce que je veux dire, voyez peut-être pas ce que je veux dire, je ne le dirai pas. Elle était petite et grisonnante, habillée habile comme une gouvernante. Ses armoires de farde et de devoir ne protégeaient plus son histoire. Oh, vai, die, oh, oh, da, di, di, do.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchie. Jeudi Noir se finit avec Dick Angarn, vous l'avez reconnu. On l'a entendu en fond tout à l'heure par erreur, avec un morceau qui s'appelle L'Institutrice, puisque je vais vous parler d'un roman d'une autrice états-unienne à nouveau, Zena Anderson. Donc elle a écrit Chronique du Peuple en 1961. Alors Zena Anderson était elle-même institutrice chrétienne, plutôt dans des courants un peu à part des chrétiennes ricaines. Alors justement, elle décrit, donc c'est de la SF, elle décrit un peuple d'aliens, d'extraterrestres qui ont eu un accident, qui sont arrivés sur Terre et qui se regroupent en communauté qui ressemble un peu à des Amish, donc repliés dans des vallées perdues. Il y a plein de récits, chaque chapitre c'est un récit différent, où souvent il y a des institutrices justement marginales qui sont fait renvoyer d'école, qui se retrouvent dans ces villages perdus à enseigner à des petits extraterrestres sans le savoir, qui ont des pouvoirs un peu bizarres. Donc elle cite la Bible tout au long, hein, Zena Anderson, mais c'est pas du tout catholique comme récit, pas très catholique on va dire, hein, puisque la Terre déjà est pas au centre de l'univers. À la place de Dieu, une sorte de présence cosmique universelle. Les anges sont des extraterrestres, enfin plus ou moins, parce que je le dis pas comme ça. Hein. Voilà. En tout cas, c'est une ambiance bucolique, champêtre, avec beaucoup d'humour, un peu à la Clifford Décimac, hein, comme nous les chiens. Voilà. Donc, je vais très vite. Zena Anderson, Chronique du Peuple. On se dit à dans 2 semaines si tout va bien. Voilà, bisous.